feel like I'm walking on air, baby. Thank you.
Radio G.
Assiette pour trois, producteurs, consommateurs, environnement, en AMAP, un engagement. Une émission proposée par les associations de l'InterAMAP du Maine-et-Loire. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Assiette pour 3 pour parler des AMAP, de l'environnement, de la consommation, etc. Alors, la dernière fois, c'était la semaine des radios associatives. On a ouvert nos portes, avec un grand plaisir d'ailleurs, pour faire découvrir Radio G et notre émission. Une fois n'est pas coutume, c'est la télé qui est venue à nous. On a pu d'ailleurs nous retrouver sur l'antenne de France 3 dans le journal du soir. Et vous avez pu voir le studio, les micros, l'ambiance, bref, un petit condensé de ce qui fait tout le sel de la radio. Mais, il y a un mais. C'était si condensé que les phrases ont été coupées féroïsement. Si je vous dis la phrase suivante, certains disent que le bio n'existe pas, mais c'est faux. Vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, si on coupe le début et la fin, on enlève certains disent et c'est faux. Qu'est-ce qu'il reste? Le bio n'existe pas. C'est ce qui nous est arrivé sur France 3. Alors, grosse amertume dans l'équipe d'Assiette pour 3. Hasard, bon, ce serait bizarre. Volonté, peut-être pas. Compétence, bon, allez, on peut formuler toutes les hypothèses. La question demeure, mais ça va mieux en le disant. On n'était pas content qu'on nous fasse dire le contraire de ce pourquoi on se bat. En tout cas, bienvenue à tous dans notre émission aujourd'hui. Je vous emmène sur la Voie lactée, nous allons parler du lait. Aujourd'hui, c'est la 12e émission, eh oui déjà, d'Assiette pour 3. Et nous accueillons dans le studio Christine, qui est productrice sur une ferme laitière avec une trentaine de vaches, et Christophe, un gourmand, qui a redécouvert le lait au sein des AMAP. Bonjour Christine.
Bonjour.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Donc Christine, 30 vaches laitières?
Voilà, 30 vaches laitières sur une ferme à Chevirey-le-Rouge, nord-est du département. Je travaille avec mon mari, on est tous les deux sur la ferme.
Et simplement des vaches ou il y a d'autres productions?
Alors, il y a des vaches laitières, il y a des poules pondeuses, 240 poules, et puis des cultures, bien sûr, pour faire l'alimentation de nos vaches.
Ah, ça c'est très important, parce qu'en fait, vous n'achetez pas du tourteau.
Non, on travaille en autonomie alimentaire pour les vaches.
Je 100%. Pousse ça un petit peu, hein, mais on va parler de
à peine 100%, parce qu'on achète un petit peu de sel, et le sel... À Chevirey, c'est pas facile.
Ah oui, non, il n'y a pas de marais salant à Chevirey. Bon. Et Christophe, alors depuis combien de temps en AMAP?
Alors, à l'AMAP de la Goutte d'Eau depuis 5 ans, donc consommateur de bon lait de la ferme de chez Christine et d'œufs depuis 5 ans.
Depuis 5 ans, donc les œufs et le lait, et je suppose d'autres choses aussi à l'AMAP.
Alors à l'AMAP, d'autres choses, légumes, pain, farine, viande.
Mais on est là aujourd'hui pour parler du lait.
Voilà.
Et donc, ça fait 5 ans en fait que vous consommez ce lait.
5 ans qu'on consomme régulièrement du lait à raison de 4 à 6 litres par semaine.
Ah oui, voilà. Quand même, ça fait pas mal.
Oui, mais il y a beaucoup de choses à faire avec le lait.
Ah bon, voilà. Vous allez nous dire tout ça. Et peut-être, alors, la première chose à faire, c'est de donner une définition peut-être du lait, parce que finalement, on peut mettre beaucoup de choses sous ce vocable.
Tout à fait. Et pour moi, en tant que productrice, le lait, c'est avant tout le produit qu'on récupère de la traite d'une vache laitière. Donc, c'est-à-dire un lait sans transformation, juste refroidi, que l'on consomme automatiquement derrière.
Voilà, ça sort directement du pied de la vache dans notre bol de lait le matin.
Voilà, on le fait refroidir et on le consomme après.
Alors, ça veut dire... en filigrane, qu'il y a d'autres sortes de lait qui, pour vous, quand même, ne sont pas tout à fait le même produit.
Voilà, tout à fait. Alors, on parle de lait sous plein de formes. Alors, on parle de lait UHT, on parle de lait végétaux, ce qui ne devrait pas se dire. On devrait parler de liquide, mais pas de lait. Parce qu'un lait UHT, donc, on parle aussi de technique de cracking, c'est-à-dire qu'on explose la molécule de lait, on enlève tout ce qu'il y a et l'industrie rajoute ben, ce qui l'intéresse ou son objet. Enfin, elle rajoute les éléments qu'elle a besoin pour vendre le produit qu'elle a envie de vendre. Les laits végétaux, ce n'est pas du lait, c'est des sèves. Il ne faut jamais oublier que les végétaux n'ont pas de lait, ils ont des sèves et c'est la sève qu'on boit. Donc ça n'a rien à voir avec un lait. Alors, il peut avoir des composés qui peuvent ressembler à du lait, mais on ne peut pas appeler ça du lait.
Oui, j'ai envie de vous expliquer un peu plus sur le cracking là, parce que...
C'est... Alors bon, moi je vais pas développer trop parce que je suis pas une technicienne et voilà. En tant que producteur, nous on lit certains documents qui nous permettent de comprendre un petit peu ce que l'industrie fait. Donc cracking, c'est vraiment une technique où on explose. C'est-à-dire que le lait, il est composé de protéines, de matières grasses, de capacaséine. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments dans le lait. Donc on divise tout ça. Et puis, pour un lait UHT, eh bien, alors, ils ont le droit de rajouter de l'eau, ce qu'il ne faut pas oublier. Ils ont le droit à mettre 10% d'eau dans leur lait UHT.
Ah bon ?
Voilà, c'est pour ça que quand on cuisine, eh ben, on a un petit peu d'eau dans le fond du plat quand on fait un laitage. Mmh. Ça, ce n'est pas, voilà, c'est pas un hasard. Mmh. Ensuite, ils vont rajouter la matière protéique et la matière grasse. Mais là, on est sur des doses infiniment plus basses que ce qu'on a sur un lait cru. La différence aussi, c'est la digestion. Un lait cru ne se digérera pas de la même façon qu'un lait UHT. Un lait UHT, comme c'est une molécule qui est toute petite, elle va se digérer au niveau de l'estomac. Le lait cru, lui, c'est une grosse molécule. L'estomac n'a pas la faculté de le consommer. Donc, du coup, il va passer dans l'intestin. Et c'est là qu'on a la flore microbienne qui va permettre de faire son travail pour pouvoir le digérer. Et du coup, ben forcément, quand on boit un lait cru et qu'on n'est pas habitué, on va dire, oh là là, c'est lourd à digérer, j'ai un poids sur l'estomac. Mmh. Ça, c'est normal. C'est la chose logique quand on consomme un lait cru. Mais l'avantage, c'est que notre corps, il est conçu pour le digérer au niveau de l'intestin. Et c'est là qu'on peut quand même penser à tous ces petits problèmes d'allergènes.
En gros, vous nous dites que notre intestin est plus intelligent que notre tête.
Tout à fait.
Hein? C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas certaines molécules, si j'ai bien compris, et bien, il va réagir plus ou moins selon ce qu'on lui fait ingérer.
Voilà.
Et plus le produit est trafiqué, je veux dire, moi, pour simplifier,
ouais.
Hein, puisque apparemment, bon, il y a quand même des choses pas très claires là-dedans. Le titre de l'émission, on avait dit « Est-ce que le lait est toujours aussi blanc ?» on voit bien que là, il y a quand même des petites questions qui se posent. Parce que dans le cracking, là, par exemple, quel est l'intérêt de l'industrie de faire ce cracking
L'argent, bien sûr. C'est toujours plus facile de pouvoir transformer plusieurs produits avec un seul litre de lait. C'est-à-dire que quand on enlève la matière grasse et la matière protéique, qu'on en remet qu'un tout petit peu dans le lait UHT, il en reste pour faire du fromage, il en reste pour faire du beurre. Enfin voilà, donc pour un seul litre, ils arrivent à transformer plusieurs produits.
Oui, et en préparant l'émission, on avait même vu que les protéines du lait donc, sont revendues à prix d'or à l'industrie agroalimentaire pour injecter, par exemple, dans le beefsteak haché, parce que ça permet de mieux se tenir. Et donc, ça fait une surconsommation de protéines qui est absolument phénoménale et qui défie, en quelque sorte, les règles de la santé et de l'hygiène alimentaire, parce que c'est des protéines cachées qu'on ne soupçonne pas.
Mais c'est vrai que, alors, si on veut revenir sur le côté un peu économique, un lait cru qui part de la ferme vers l'industrie, donc en bio, on va être à 45-50 centimes. Dès qu'il passe en industrie, on est sur un lait UHT à 1,50€ vendu au consommateur. Donc c'est on ça. Voit bien qu'il y a quand même un différentiel qui va quelque part.
Voilà, et c'est là où quand même on peut s'interroger, nous du coup, alors je ne sais pas, peut-être Christophe pourrait nous en parler, des questions qu'on doit se poser avant d'acheter son litre de lait.
Ce que je voulais dire, c'est déjà lorsque moi je prends le lait de chez Christine, on le voit à l'œil nu, par rapport à un lait UHT, on voit tout de suite que le lait il est beaucoup plus épais, et, voilà, il a une meilleure odeur, on sent que c'est voilà, un produit qui est très intéressant. C'est vrai que moi, je suis venu à la MAP d'abord par les légumes, j'ai discuté ensuite avec Christine, elle m'a expliqué là, tout ce qu'elle vient de dire. C'est vrai que c'est très intéressant au niveau du lait d'avoir quand même toute cette richesse. Quoi. Ce qu'elle permet de faire après des produits dérivés qu'on fait nous-mêmes, les yaourts, les gâteaux, les eaux au lait, les crèmes, voilà. Donc,
Et votre famille apprécie, je suppose.
La famille apprécie. C'est vrai que pour les enfants, c'est bien. On retrouve un autre goût, oui, quand même, que le lait UHT, qui on a l'impression que c'est de l'eau de temps en temps.
Oui. On retrouve ce que disait Christine. Oui.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça permet justement après de consommer autrement le lait, mais aussi tous les produits dérivés qu'on fait nous-mêmes finalement maintenant. Donc on s'est équipé d'une yaourtière. Voilà, on fait nos yaourts.
Alors Christine, dans votre ferme, pour avoir ce bon lait dont vient de nous parler Christophe, je suppose que vous les traitez avec douceur, vos petites vaches.
Alors déjà, je pense qu'il y a une question de race. Nous, ouais, on travaille avec la race normande. Ouais. Donc c'est une race que je considère quand même presque locale, puisque dans ses origines, il y a de la Mancelle, donc on n'est pas très loin du Mans. C'est une race qui a... naturellement, qui a un lait crémeux, donc qui est logique facile à transformer pour faire du fromage ou des laitages, parce qu'il est crémeux mais pas gras. Voilà, c'est un petit peu la différence.
C'est la nuance, crémeux mais pas gras. Voilà. Mais je pense qu'on peut comprendre, et quand on le goûte, on le sent, voilà, bien.
Et donc, l'autre particularité, c'est l'alimentation. Donc nous, on travaille en autonomie alimentaire, comme je le disais tout à l'heure. Les surfaces fourragères sont utilisées pour faire le foin. On a des cultures céréalières pour faire l'aliment, parce qu'il faut compléter. Donc on travaille avec ce qu'on appelle des métayes. Donc on apporte des mélanges céréaliers, dedans on met du blé, de l'avoine, de l'orge, de la févrole... Et du petit pois, ça donne la protéine, ce qui nous évite justement d'acheter des tourteaux de soja. Et puis, donc ça, c'est ce qui nous compose la ration hivernale. Alors, on rajoute aussi un petit peu, alors cette année, parce que l'année a été un petit peu particulière en 2016, on travaille avec ce qu'on appelle de l'enrubanage. Donc l'enrubanage, c'est un fourrage qui est mené comme le foin, mais qui n'est pas complètement sec. Donc on le met en botte ronde, et après il y a une machine qui met un film plastique autour, ce qui permet une espèce de stabilité par une fermentation anaérobique. Et ce qui permet d'avoir un fourrage qui est un petit peu plus appétant pour les vaches. Donc il est...
Elles aiment ça, en gros.
Elles aiment ça. Il y a un petit peu de goût de sucre, ça sent un petit peu le caramel, quoi. Et donc, mais on n'en met pas trop, parce qu'on est quand même sur un aliment fermenté. Et ce qu'il ne faut jamais oublier sur le lait, c'est que ce que mange la vache se retrouve dans le lait. Donc plus on a des aliments acides, donc fermentés, plus le lait peut être acide. Donc nous, on travaille énormément avec des fourrages secs ou frais, comme l'herbe, pour permettre un lait doux. C'est-à-dire que quand on le boit, plus on va avoir une alimentation douce, plus on permettra d'avoir un lait qui sera facile à boire, même cru, même sans mettre de... Si on veut se faire un lait fraise, on peut se faire plaisir, mais on peut boire un lait nature. Et là, il est doux.
Elle est tout doux. Voilà. Bon, on reviendra sur l'alimentation, parce que je crois qu'on a encore des choses à dire. On est presque à la moitié de l'émission. On va faire une petite pause un peu humoristique, une petite pause musicale un peu humoristique, et puis on se retrouve tout de suite.
Change pas mon humeur, la joie est dans mon cœur. Et si je peux prétendre conserver la forme que j'ai, c'est que je bois du lait. Oh, sache qu'un peu les copains qui ne comprennent pas, oh, ils boivent du whisky, de la bière, du coca. Évidemment, ça choque. Chante du rock, et puis tu bois du lait. Oh, et dit que ma nounou ne pouvait me faire boire la moindre goutte de l'eau, alors que maintenant j'en bois des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de lait. Et tout le lait que je bois me donne le teint frais. Que moi,
que maintenant je vois des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, plus de tonnes de lait. Et tout le lait que je bois me donne le temps frais. Toujours avoir les clés, il n'y a pas d'autre de secret que moi, buvez du lait.
Voilà, c'était un rock endiablé des années, je sais pas, 60, 70. Je bois du lait, Danny Logan et les pirates. C'était un petit clin d'œil. Hein. On va revenir sur le restaurant de choix de la ferme de Christine pour ses vaches, parce que franchement, elles sont dorlotées, celles-ci. Hein. Donc, est-ce qu'on peut prolonger et avoir un peu de précision encore? Parce que je crois qu'on n'a pas parlé de l'herbage, notamment.
Alors, l'herbage, qui est de toute façon le plat principal de la vache. Hein. Mais alors nous, là, j'ai parlé de la ration qu'on a l'hiver, puisqu'on rentre les animaux en bâtiment. Et dès que là, la météo nous le permettra, c'est-à-dire allez, fin mars, début avril, là, elles partiront en pâturage. Et on travaille sur des prairies multi-espèces, toujours dans cette approche d'avoir une espèce de complémentarité dans l'alimentation. Donc on travaille avec plusieurs graminées, des légumineuses, donc le petit trèfle, la petite luzerne, le lotier, donc ça fait du rose, du rouge et du jaune dans la prairie.
En plus, c'est joli. Mais alors si je comprends bien, oui, une prairie, ça se travaille alors.
La prairie, ça se travaille, ça se choisit suivant les sols. Nous, on a différents types de sols, donc suivant qu'il est plus ou moins acide ou basique, on choisit des plantes qui vont permettre de s'adapter. Il y a des terrains qui sont un peu plus humides, on va choisir des plantes qui vont plus supporter l'humidité. Enfin voilà, le choix se fait suivant le sol. Il y a un lien complet entre le sol, la plante et l'animal. Il y a rien qui se sépare.
Quoi. Donc il faut couper court aux idées reçues qu'une prairie ça pousse bêtement tout seul et que les vaches y broutent autant qu'elles veulent. Non, c'est pas si simple.
Non,
vous
non.
Travaillez vos prairies.
On les travaille et puis il faut aussi une espèce de complémentarité entre le pâturage et la fauche. Ça permet justement à une
c'est quoi la fauche?
Alors la fauche, c'est quand on coupe pour faire du foin.
D'accord.
Une prairie, pour qu'elle soit belle et qu'elle dure, il faut et la pâturer et la faucher. Parce que les animaux vont pâturer d'une certaine façon, donc ils vont favoriser quelques plantes plus que d'autres. Et la fauche va permettre justement un rééquilibrage. Donc voilà, ça c'est aussi important pour que nos prairies... Quand on sème une prairie, elle est en place pour 5 ans, quoi. Donc il faut l'entretenir, quoi. Et elle s'entretient avec les fumiers des vaches.
Oui,
donc voilà, ça revient.
Cycle,
voilà.
Le cycle finalement s'organise
tout
et c'est là où on est quand même au plus près de l'environnement.
On
est loin là de la ferme des 1000 vaches.
Oui.
Voire encore plus en Allemagne, c'est pas 1000 vaches.
Oui, c'est plus. Et c'est vrai que encourager le maintien de l'agriculture paysanne, c'est important. D'ailleurs, au niveau du courrier de l'Ouest, on a eu une info qui disait qu'il y avait une demande pour grossir un élevage dans le Segréen.
Oui, j'ai vu passer ça dans le courrier, effectivement.
Voilà, donc il y a une pétition. Donc voilà, renseignez-vous si ça vous intéresse. Mais on se doit, nous, producteurs, de maintenir l'agriculture paysanne. C'est ce qui permet de travailler différemment, de protéger nos prairies, nos haies. Enfin voilà, on a l'environnement, c'est aussi l'agriculture qu'on a dessus, quoi.
Tout cet environnement qui nous permet de bien manger et de bien vivre, parce que ça a un retentissement surtout. Ce n'est pas les consommateurs comme Christophe qui diront le contraire. Je suppose que ça rentre aussi dans votre choix.
Oui, ce qui est important, ce que disait Christine notamment, c'est qu'en fait, ce que mange la vache, ça se retrouve dans le lait et après, le lait se retrouve dans notre corps. Donc nous, on est vraiment très vigilants à notre sécurité alimentaire. On a vraiment à avoir envie des bons produits, on sait d'où ils viennent, on sait ce que mange la vache, on discute avec Christine, puisqu'on a un contact quand même toutes les semaines avec elle, on peut échanger avec les producteurs, on sait comment sont élevées les bêtes, ce qu'elles mangent, et après pour nous c'est quand même important pour notre alimentation.
Et on ouvre la ferme. Je pense que c'est important.
Alors ça,
on a le droit, enfin nous, pour nous, tous les consommateurs peuvent venir nous voir. Enfin, on n'a rien à cacher. Donc voilà, ils peuvent venir voir les vaches,
oui.
Voir la traite, participer à la traite.
Ouais, j'ai eu écho de petits-enfants de la MAP qui sont allés voir les vaches et boire le lait directement.
Directement
ça,
de la mamelle.
C'est quand même rarissime maintenant.
Ouais.
Et grâce à votre ferme, c'est possible.
Tout à fait.
C'est pas rien non plus, ça, parce que ça participe d'une transmission.
Oui, complètement.
Et de l'éducation du goût. Et, par exemple, chez vous, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Il y a pas, quand vous êtes passé d'un lait industriel, voire d'un lait UHT, à ce lait naturel, est-ce qu'il y a eu des réactions? Oh, ça a trop de goût.
Non, pas de réaction de la part des enfants. Au contraire, ils sont tout de suite mis. Il n'y a pas eu de soucis au niveau de digestif. Voilà, on a des enfants qui sont en bonne santé, pas malades. Un garçon qui boit beaucoup de lait, il n'y a pas eu de soucis. Et avec le lait, maintenant, puisqu'on là, on est à 6 litres par semaine. Donc, on a les yaourts, hein, ce que je disais. On a beaucoup de recettes, des crêpes régulièrement. Ce qui est important aussi, c'est peut-être l'emballage. On vient donc toutes les semaines avec nos bouteilles, bouteilles en verre, qu'on lave bien et qu'on réutilise d'une semaine sur l'autre. C'est vrai que j'entendais récemment des soucis sur les bouteilles plastiques de lait qui ne seraient pas forcément adaptées. C'est vrai qu'avec la MAP, c'est très intéressant. On a le lait dans la fontaine, on l'a dans notre bouteille en verre, et voilà.
Oui, il y aura prochainement, je crois, sur Radio G, une émission sur le gaspillage. Et donc voilà, encore un des éléments qui fait que ce mode de consommation en AMAP fait qu'on gaspille moins, parce qu'on n'a pas d'emballage, on rapporte.
Oui, c'est vrai que nous, en tant que producteurs, quand on a réfléchi à passer en vente directe, notre objectif, c'était de faire sans emballage, quoi. Et donc d'amener le lait en vrac, de façon à ce que les consommateurs se prennent en charge pour le ramener chez eux.
Je suis sûre que pour nos auditeurs, ça va poser question, parce qu'il me semble qu'il y a une idée fausse, apparemment, qui circule, comme quoi la distribution de lait cru ne serait plus autorisée.
Ah oui, ça, on m'a déjà posé cette question-là. Alors là, non, hein, il y a vraiment une réglementation qui nous permet, nous, en tant que producteurs, de vendre en direct. Il suffit juste d'avoir une acceptation, enfin une visite des services vétérinaires.
Sanitaires, oui.
Voilà, on est contrôlé, bien sûr, on fait des analyses de lait régulières, et on a juste l'obligation des mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte le lait entre 2 et 6 degrés maximum, et après, à charge à nous de trouver les solutions pour que ça se passe comme ça, quoi.
Donc, répétons-le bien haut et bien fort, la vente de lait cru est autorisée sur les marchés ou dans les AMAP.
Voilà. En respectant la stabilité du froid. Voilà.
C'est ça, évidemment. Voilà.
Donc, nous, quand on fait la traite, on baisse le lait à 2 degrés. Il est maintenu entre 2 et 4 degrés. On vient en AMAP ou sur les marchés avec des fontaines isothermes qui maintiennent le lait à cette température. Et puis après, au consommateur de venir chercher et de faire en sorte de le conserver à température jusqu'à chez eux.
Dans de bonnes conditions.
Voilà.
Donc ça nous amène tout naturellement à l'aspect pratique. Bon, comment on passe d'une consommation de lait industriel à cette consommation-là? Bon, ça demande une organisation un petit peu différente, je suppose, Christophe. Bon, bah, emmener ses bouteilles, vous l'avez dit.
Oui, simplement emmener ses bouteilles, les mettre pas dans la porte du frigidaire, mais les mettre à l'intérieur du frigidaire, puisque lorsqu'on ouvre régulièrement la porte, il y a quand même sûrement un peu plus de chaleur.
Ah oui.
Voilà. Après, c'est un lait qui se conserve très bien. Donc, la livraison, c'est le jeudi soir. Nous, jusqu'au lundi, il n'y a pas de souci. Il reste dans le frigidaire. On congèle de temps en temps. Voilà, ça ne pose pas de souci.
Ça peut se congeler et il n'y a pas d'incidence sur le plan gustatif?
Aucune incidence sur le plan gustatif. Non, il n'y a pas de souci.
Donc ça vous permet, quand il y a besoin, hop, une petite béchamel, on n'a rien, hop, on a un petit pot de lait congelé et ça marche?
Ça marche très bien. Voilà, pour tous les yaourts, toutes les recettes qu'on fait... On est passé au lait cru, il n'y a eu aucune difficulté.
Oui. En préparant l'émission, je ne sais plus, le cas des deux disait que pour passer justement au lait cru, il était peut-être préférable de commencer à le boire. Je crois que c'est vous, Christine, qui disait...
C'est vrai que j'ai tendance à conseiller ça pour des familles qui ne connaissent pas du tout le lait cru. Le matin n'est pas toujours approprié pour découvrir le lait cru, parce qu'on a des petites habitudes matinales et les papilles, elles n'aiment pas trop la découverte le matin. Donc souvent, moi, je conseille, quand on veut essayer en boisson le lait, essayons plutôt au goûter. Un petit chocolat chaud avec les enfants, c'est sympa, surtout encore à cette époque-là. Et puis, si on veut l'utiliser en dessert, bon, ben là, voilà, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser un peu quand on veut. Mais si c'est pour en boisson, essayons d'abord au goûter.
Oui, ça passera mieux. C'est pas directement au réveil.
Ouais. Faut pas être trop brusque.
Oui, on va pas brusquer les choses. C'est contraire vraiment à ce que l'on souhaite. On est là pour rechercher le plaisir de boire du lait. Et là, le petit chocolat chaud du 4 heures, vraiment. Ça a un petit côté enfance, moi, qui me rappelle des choses. C'est sympa, quoi.
Ouais.
Alors, puisqu'on est dans le gustatif, Est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre nous donner une petite recette, je sais pas, quelque chose qui nous donne envie d'aller cuisiner du bon lait, pas...
Alors moi j'ai tendance à proposer le riz au lait parce que c'est j'ai des personnes d'ailleurs qui viennent occasionnellement chercher du lait et c'est surtout pour le riz au lait parce qu'on n'obtient jamais un bon riz au lait en lait UHT.
Alors Christine, avez la parole, dites-nous tous vos secrets, on va tout savoir.
Un bon riz au lait, d'abord on prend 1 litre de lait cru, bien sûr, bio. On met 6 cuillerées à soupe de riz rond.
Rond.
6 cuillerées à soupe de sucre, ouais. Une pincée de sel. Après, rien de plus facile, on met le lait à chauffer. Petite astuce, on met un petit filet d'eau avant dans la casserole, le lait attache moins.
Ah.
Ça, on nettoie sa
on a
casserole.
Moins besoin de gratter, quoi.
Voilà, ça bon. Prend moins. Ensuite, donc on met son lait à chauffer. Quand le lait est à ébullition, on verse le riz directement dans le lait. On remue régulièrement.
On touille, comme on dit.
On touille. On laisse... alors, il faut doser la température de façon à ce que ça bouillotte toujours un petit peu, mais pas trop vite. Il faut compter entre 20 et 30 minutes de cuisson.
Tout doucement.
Tout doucement. Quand le riz, il est tout juste fondant sous la dent et que le lait est bien crémeux, là, on arrête la cuisson. On verse le sucre avec le sel.
Ah, après.
Après.
Ah.
Et on met dans le plat et voilà, on laisse refroidir et on déguste.
Mais pas le sucre tout de suite.
Pas tout de suite. Alors, une petite chose qui va bien aussi avec le riz au lait, c'est la gousse de vanille. Donc, on prend une gousse de vanille de Madagascar, c'est pas mal. On la coupe en deux, on la met dans le lait au moment de le faire chauffer. Et voilà, ça parfume le riz et on enlève la gousse juste avant de mettre le sucre.
Et après, on n'a plus qu'à se régaler. Quoi.
Et voilà.
Bon, je pense qu'on va être un certain nombre à essayer là, dans les jours qui viennent, après avoir trouvé du bon lait cru.
Ouais.
Et bon, je suppose que c'est une recette que Christophe connaît. Ça.
Oui, oui, on en fait plusieurs. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant avec le lait, ça permet justement de varier les plaisirs.
Oui, c'est ça. Ne nous privons pas hein, quand il s'agit de manger des bonnes choses. Bon, s'approvisionner en lait, on arrive presque à la fin de l'émission. C'est quand même un peu compliqué. Nous avons la chance, nous, en Maine-et-Loire, quand même, par rapport à d'autres départements, parce qu'on a vu en préparant l'émission que dans certains endroits, c'était quasi impossible.
Ben, la politique agricole a fait pas mal de sectorisation de produits.
Oui.
Donc c'est vrai que nous, dans le Grand Ouest, on a la chance d'être encore une région de production lait. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des régions...
Alors j'ai entendu hier soir que la mascotte du Salon de l'Agriculture...
C'était une bretonne.
Oui, c'est une pinoire. Ouais. Donc moi, ça ne me parle pas trop, mais je suppose
bretonne pinoire, c'est une petite race locale qui est vraiment super et pour la transformation du lait qui est super.
Et d'après ce que j'ai entendu, qui a failli se perdre.
Oui, tout à fait. Il y a des éleveurs qui ont pris conscience de ça et moi je sais que moi en tant que consommatrice, je me suis trouvée en Bretagne et j'ai trouvé un producteur qui transformait son lait bretonne pinoire en fromage et je peux vous dire que ça fait quelque chose de très très bon.
Bon, on essaiera de goûter ça. Et vos vaches, vous, ce sont des
Normandes.
Des Normandes.
Alors là bon, aussi, c'est une belle race.
On essaiera d'aller les voir.
Ouais, ouais.
Bon, eh bien, on arrive presque au terme de notre émission. Il nous reste quelques annonces à faire. Tout d'abord, vous informer des prochaines projections d'un film qui est très intéressant, le film de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?». C'est un film passionnant qui nous explique comment une petite ville en Alsace s'est lancée en fait dans une démarche de transition vers l'après-pétrole. Donc il va y avoir des projections en Maine-et-Loire, Christine va pouvoir nous dire.
Tout à fait. Alors, la première, le 8 mars à Baugé au Stella Ciné, le 11 mars à Chemillé au Cinéma du Club, le 13 mars à Angers au cinéma Les 400 coups à 19h45 et à Cornay le 6 avril au espace Sequoia.
Bien, mais ça fait 4 dates. Je pense que ça vaut le coup qu'on retienne une de ces 4 dates pour aller voir ce film qui est vraiment très intéressant. Il y a aussi 2 livres qui nous ont aidés à préparer cette émission et qui valent le coup d'être lus. Je vous les cite, mais on essaiera de les mettre en ligne si on peut. La vache qui pleure, qui est sous-titré au Retour au lait naturel. C'est un livre de Véronique Richer-Lerouge aux éditions Le Nouveau Monde. Le livre aussi d'Elsa Casalegno et de Karl Lask qui s'intitule Les cartels du lait ou comment ils remodèlent l'agriculture et précipitent la crise. C'est un livre très documenté qui permet de comprendre la crise du lait, on n'en a pas parlé là mais il y aurait beaucoup à dire, avec des arguments qui nous sont rarement présentés dans les médias. Et enfin, un DVD très beau qui s'intitule « Herbe » de Mathieu Levin et Olivier Porte. Alors, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ces trois documents sont disponibles à la Bibliothèque municipale d'Angers. Donc, vous pouvez y aller. On a la chance d'avoir une très bonne ressource dans cette bibliothèque. Et donc là, ce n'est pas une question de moyens. Il suffit d'y aller et de faire le curieux. Et vous pouvez aussi, bien sûr, les commander chez un des libraires indépendants de la ville d'Angers, puisque c'est ça aussi, consommer local. Donc, merci à Christine et à Christophe de nous avoir consacré un peu de leur précieux temps. Merci vraiment d'être venu jusqu'à Radio G. Merci à l'homme invisible, ou plus précisément à l'homme inaudible, Philippe, à la technique, sans qui rien ne serait possible. Assiette pour trois vous donne rendez-vous le lundi 13 mars à 13h. Oh là là, 13 mars, 13h, c'est une bonne journée.